toutes les énergies du sport nous rassemblent. Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
RMC, Grand Plateau, Christophe Cessieux.
Salut à tous, on le surnomme le mini Tour de France. Il a pourtant tout d'un grand le critérium du Dauphiné, 76e du nom. C'était lancé ce dimanche de l'Allier en direction des Alpes, une course mythique que tous les plus grands noms du peloton ont un jour accroché à leur palmarès. Alors qui cette année pour succéder à Jonas Vingegaard, vainqueur sortant, qui avait prévu d'ailleurs de prendre part au Dauphiné avant que cette chute terrible ne mette à mal son programme et ses ambitions. Beaucoup de prétendants évidemment, et parmi eux, deux noms se détachent, ceux de Remco Evenepoel et de Primoz Roglic. Arnaud Souk a rencontré le jeune champion belge qui participe pour la première fois au Dauphiné. On l'écoutera et on débattra de son cas. Derrière les cadors, il y a aussi quelques lieutenants aux dents longues qui pourraient profiter de l'état de forme aléatoire, incertain, ou de l'absence de leur patron pour tirer leur épingle du jeu. Jorgensen, Kuss, Ayuso, sur lequel d'entre eux faut-il miser? J'attends avec impatience les prédictions de Cyril, d'Arnaud et de Johan. Enfin, on s'intéressera aux Français. Ça fait 17 ans maintenant qu'aucun de nos représentants n'a remporté le Dauphiné. Alors ont-ils une petite chance cette année ou faudra-t-il encore patienter de longues années? Eh bien, on verra tout ça. Pour débattre de tous ces sujets, la Dream Team est au complet aujourd'hui. On sent que l'on approche des grandes échéances. La Dream Team, l'équipe numéro 1 des titulaires, est en place. Cyril Guimard, Arnaud Souk et Johan Bredov, excusez du peu. Bonjour les garçons.
Salut à toi. Salut les amis.
Oui, bonjour à tous.
Comment ça va mon Cyril, mon druide? Il est en forme là? En pleine forme pour attaquer ce mois de juin? La dernière ligne droite avant le tour?
Il me reste 4 semaines pour finir la prépa du tour, mais c'est bon.
Ouais, c'est bon, tu seras...
Non, mais je suis déjà bien, là, pour le Dauphiné, je suis bien.
Écoute, déjà. C'est l'essentiel, t'as déjà atteint un pic de forme pour le Dauphiné. Qu'est-ce que ça va être sur le Tour de France? Le Tour, tous ceux qui participent à ce Dauphiné l'ont évidemment dans un coin de leur tête, à moins de 4 semaines du grand départ de Florence. Le critérium est une bonne tête de répétition générale. L'an dernier, il avait d'ailleurs servi de rampe de lancement à un certain Jonas Vingegaard.
Se retourne Jonas Vingegaard. Non, il n'y a plus personne. Il voulait savoir où il en était à quelques jours du Tour de France. Il est amplement rassuré après sa deuxième place hier. Jonas Vingegaard remporte cette étape ici à Saint-Lin-les-Bains. La deuxième pour lui au Dauphiné après celle de l'année dernière. Mais surtout, il portera le maillot jaune ce soir.
Et la deuxième place pour Jonas Vingegaard, qui va remporter haut la main ce critérium du Dauphiné 2023. Pour la première fois de sa carrière, Jonas Vingegaard, vainqueur du critérium du Dauphiné, 3 semaines avant le départ du Tour. Le coureur danois qui frappe un grand coup, il a été impérial durant toute la semaine avec une équipe très solide à ses côtés.
Le classement général final à Jonas Vingegaard, donc le grand vainqueur, de 23 d'avance sur Adam Yates, Ben O'Connor 3e, Jai Hindley 4e, Jack Egg et puis Guillaume Martin, le premier français donc, qui termine à la 6e place. En revanche, les écarts sont importants. Ça, il faudra s'en souvenir, évidemment. Jonas Vingegaard a largement dominé la semaine.
Jonas Vingegaard, l'un des deux grands absents de ce Dauphiné, lui qui y avait pris part lors des 3 dernières saisons en triomphant l'an dernier après avoir été battu par son leader Primoz Roglic en 2022. A priori, c'est plutôt une course idéale, Cyril, pour se préparer au Tour, ce critérium. Il est idéalement placé à 4 semaines du départ du Tour. Quand on finit dans les Alpes, on est à 3 semaines du départ. On doit déjà atteindre, peut-être pas le pic de forme absolu, mais on ne doit pas en être loin quand même à la sortie du critérium.
Oui, le critérium du Dauphiné, c'est d'abord plus qu'une course de préparation pour le Tour. C'est un objectif pour les équipes et pour les coureurs. Marcher sur le Dauphiné, ou tout du moins être dans le coup sur le Dauphiné, c'est pratiquement une certitude de l'être sur le Tour, à moins qu'il se passe des choses qui seraient dommageables. Mais le Dauphiné, oui, non, c'est pour moi l'épreuve qui va déterminer en grande partie, pour les coureurs qui font le Tour de France, bien sûr, pratiquement leur performance sur le Tour.
Tu le disais, c'est un objectif pour les équipes, ce Dauphiné. On a l'impression quand même depuis quelques années que c'est devenu surtout une course de préparation. Alors qu'avant, c'était un objectif en soi pour les équipes, Cyril.
Oui, mais vous savez, il y a les discours qui changent. La réalité, c'est que tout coureur qui peut gagner le Dauphiné, il suffit de regarder le palmarès, par exemple, du Critérium, et de regarder le palmarès du Tour de France derrière. On s'aperçoit que tous les grands qui ont gagné le Tour de France ont gagné le Dauphiné.
Tous. Presque tous.
ou presque tous. Quelques
contre-exemples, Arnaud, tu as des contre-exemples?
Les contre-exemples, alors je ne sais pas ce que tu entends par grand, mais tu peux prendre Egan Bernal qui ne l'a pas gagné, tu as des Pogacar ne l'a pas gagné, voilà, tu as plein de coureurs comme ça qui ne l'ont pas gagné. Voilà. Donc, t'as des contre-exemples. Mais tu as raison, Cyril, dans la mesure où moi j'allais sortir une statistique qui, je pense, quand même est assez parlante et qui vient soutenir ce que tu nous dis, c'est que sur les 12 dernières éditions, à 6 reprises, le futur vainqueur du Tour de France a gagné le Critérium du Dauphiné. Donc, il y a eu Bradley Wiggins notamment, il y a eu Christopher Froome, il y a eu Geraint Thomas et Jonas Vingegaard l'an passé.
Ouais, effectivement, ça fait quand même un bon pourcentage. David Gaudu, quand même, confié cette semaine, tu as beau gagner le Dauphiné, dit-il, si tu rates le tour derrière, tu rates ta saison. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
Ça dépend de qui tu parles. si tu parles de coureurs comme Pogacar, Evenepoel, Roglic et Vingegaard, oui, certainement. C'est
mais Gaudu a gagné le Dauphiné.
Il peut nous faire 30e du tour.
On serait en joie pendant 30 ans.
Bien sûr. En plus, ça fait combien de temps qu'un Français n'a pas gagné une course par étape pour le tour? 17. Voilà, 17 ans. C'est énorme. Donc, ça dépend de qui on parle. David Gaudu, il peut gagner le Dauphiné. On ne va pas lui reprocher de passer à côté du tour.
Il est sur le Dauphiné. Il est rarement en forme, David Gaudu. Il a plus été en réussite l'an passé, notamment sur Paris-Nice. Mais c'est vrai que ce n'est pas trop sa course de prédilection. Mais voilà, il y en a beaucoup aussi qui disent que, comme tu le disais très justement, Christophe, que cette course est une course de préparation. On vise quand même ce qui va se passer en deuxième et troisième semaine de Tour de France et qui vont être très très difficiles. Et on peut en parler avec plein de coureurs. On en a parlé avec Warren Barguil ce matin. On en a parlé avec David Gaudu également. On peut également faire le même constat avec Remco Evenepoel. Bref, tout le monde pense forcément quand même à cet objectif du Tour de France.
Évidemment. Alors il faut dire qu'il y a tout dans ce.
Je crois qu'il faut aller plus loin que ça avec Gaudu parce qu'il est bien gentil. Il y a quoi comme palmarès?
Voilà.
Et cette année, il a gagné, je crois, c'est comment, le Rock Amateur, là, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Il a gagné une petite course qui est une 1-1. Et il dit, vaut mieux pas gagner le Dauphiné et réussir son tour. Alors qu'il essaye déjà de gagner le Dauphiné, même de venir dans le top 5. Non, non, Gaudu, à certains moments, il dit n'importe quoi et il me fatigue.
Le voilà habillé pour l'hiver ou pour l'été, ça
dépend. Non, non, mais attends, faut qu'il arrête. Il dit tout et son contraire. Attends, il a fait une fois deuxième de Paris-Nice, oui, d'accord. Mais le Tour de France, ça fait 2 ans qu'il fait que 3 podiums, que 3 top 10 sur les étapes du Tour de France. Et il dit, je veux réussir mon tour. Alors, qui gagne déjà le Dauphiné?
Bon, écoute, on reparlera de lui tout à l'heure en deuxième round. Là, pour l'instant, tu lui as mis un chaos technique dès la première minute.
Il est pas trop enrhumé parce que là, il a pris cher là quand même.
Il a pris cher. Alors,
mais c'est la réalité ou
pas? Ah ben non, mais c'est la réalité.
Ce que je dis.
J'ai pas envie de me faire des ennemis là tout de suite en ce début de mois de juin.
Ça va être sympa les interviews.
On a un long été cycliste à passer.
Arnaud, la suite du Dauphiné.
Ah oui, c'est le Tour du Jura. J'arrivais pas à m'en rappeler. Alors, Tour du Jura qu'il a gagné.
Quand même, t'es un peu dédaigneux pour ce magnifique départ. Du Jura.
Non, c'est une très belle épreuve. Hein. C'est une très belle épreuve.
Non, mais c'est une très belle épreuve.
Qu'il avait notamment gagné devant Guillaume Martin.
Oui, c'est une classe 1.
Bon. Alors, revenons au Dauphiné. Il y a tout, Johan, dans ce Dauphiné. Oui. Contre la montre, étape de plat pour les sprinteurs, pour les punchers, et puis surtout un beau menu de haute montagne. Tu vas nous détailler ça dans le détail. Attends, tu vas nous dire ça dans le détail avec ce programme des réjouissances incroyables.
Oui, parce qu'on a eu la première étape. Et hier, on enregistre, on est lundi, qu'il y avait Sacré Mats Pedersen, mais ça devrait être une des seules réservées aux sprinteurs. Ensuite, on a 2 étapes pour puncher-grimpeur, avant donc un contre-la-montre très important de 34,4 km mercredi exactement dans la Loire entre Saint-Germain-Laval et Neulise. Une étape qui sera très intéressante à suivre dans la perspective du Tour. On pense à Remco Evenepoel et Primoz Roglic évidemment. On va les jauger déjà sur cette étape. Avant donc le lendemain, la journée la plus longue de ce Dauphiné, une 5e étape de 200 km. Si personne n'a piégé le peloton, là ça sera le dernier moment pour les sprinteurs de briller. Avant un enchaînement très difficile sur les 3 derniers jours avec 3 arrivées au sommet. Le vendredi sur le collet Alevar, hors catégorie. Le lendemain, ce sera l'étape reine avec 4 ascensions au programme. Le col des Saisies, la côte d'Arrache, le col de la Ramaz avant l'arrivée à Saint-Moins, 1600. Et pour finir, dimanche, là encore, 4 ascensions, 2 de première catégorie, le col de la Forclaz de Montmain est d'entrée de jeu, et le Salève, dont le sommet est à 58 km de l'arrivée. L'arrivée est justement située sur le plateau des Glières, où tout pourrait se jouer sur cette difficulté de 9,4 km et 7% de moyenne. Donc ça va monter. Ça sera crescendo, ça sera extrêmement difficile. Et je me demande si ce n'est pas un des dauphinés les plus difficiles de l'histoire quand même. Peut-être même trop difficile.
Mmh. Arnaud, qu'en disent les coureurs, puisque tu es présent sur le dauphiné? Est-ce que le programme fait un peu peur à tout le monde ou pas?
Non, mais pas plus que d'habitude. Hein. On a 20 000 mètres de dénivelé positif environ sur la semaine, mais les coureurs y sont habitués. Alors c'est vrai que c'est quand même très très difficile cette année, mais pour preuve que ça ne l'est pas non plus tant que ça, il y a des sprinteurs qui sont venus cette année. Je pense à Mats Pedersen, je pense à Sam Bennett, il y en a d'autres qui sont là également, des coureurs qui sont capables d'être rapides. Ça veut dire aussi qu'il y a des possibilités pour eux de s'imposer. Ça, c'est pas tous les ans le cas. Hein. Je me souviens d'une année notamment, je sais plus, c'était il y a 2 ou 3 ans, où c'était le seul sprinter, en gros, c'était Ivan Garcia Cortina. Donc ça faisait un petit peu léger. Donc c'est la preuve quand même qu'il y a moyen de faire des choses. Attention à ne pas regarder les choses, on va dire, de manière un petit peu. Enfin, c'est un trompe-l'œil, si vous voulez. Aujourd'hui, par exemple, ça paraît difficile. Ça l'est pas tant que ça. Il y a 2500 mètres de dénivelé positif. Bon, a priori, ça va. C'est pas non plus la mort.
Ouais.
Je sais pas ce que t'en penses, Cyril, mais ça pourrait aujourd'hui arriver au sprint quand même. Hein. Voilà, avec un groupe de costauds, certes, mais au sprint.
Oui, oui, tout à fait. Mais bon, faut toujours se rappeler que c'est les coureurs qui font la course. Et si vous mettez 4 cols et qui neutralisent les 2 premiers, il faut plus compter que 2 cols, quoi. Et on l'a vu sur certains grands tours, comme le Giro l'an dernier, où il y avait overdose sur le papier. Il s'est rien passé jusqu'au dernier contre la monte en col, quoi. Donc, c'est les coureurs qui décident, ou plus exactement en grande partie aussi, les directeurs sportifs qui maîtrise la chose, c'est-à-dire qu'en aucun cas on va faire attaquer trop tôt alors qu'on va se prendre un coup d'élastique derrière. Donc la course, elle est gérée en fonction des difficultés, et qu'il y ait beaucoup de col ou beaucoup moins de col. Imaginez que vous mettiez qu'un seul col avec une arrivée au sommet dans un grand tour, je peux vous dire que ça monterait très vite.
Et oui, c'est souvent, on l'a vérifié d'ailleurs ces dernières années, les courses de côte c'est souvent plus spectaculaire qu'une étape avec 4 grands cols qui fait que tout le monde a la trouille au départ de l'étape. Alors, en l'absence de Vingegaard et de Pogacar, qui n'a pris part au dauphiné qu'une seule fois dans sa carrière, quels sont les favoris? Deux noms se détachent, évidemment, les deux noms les plus prestigieux, ceux de Primoz Roglic et celui de Remco Evenepoel, les deux hommes dont on rappelle qu'ils avaient été blessés comme Vingegaard lors de cette chute terrible au Pays Basque. Dans quel état sont-ils? Arnaud, tu as pu discuter ce week-end avec Remco Evenepoel, une discussion sans langue de bois, parce que là, la langue de bois, il ne connaît pas, Remco.
Non,
avec donc le champion belge.
Oui, effectivement, Remco Evenepoel de retour à la compétition après 2 mois de convalescence, hein, suite à cette terrible chute sur le tour du Pays Basque, cette fracture aussi de la clavicule. Le stage de reprise en altitude en Sierra Nevada au mois de mai ne fut pas de tout repos pour le Belge. Psychologiquement, d'abord, il a fallu réapprendre à apprivoiser sa peur des descentes. Et oui, parce qu'elle a existé physiquement, Evenepoel dit qu'il a souffert.
J'ai vraiment souffert au stage d'altitude. J'ai vraiment pas prouvé un bon niveau, donc faut continuer à travailler dessus. Donc j'espère de vraiment évoluer dans la course, de trouver un meilleur niveau chaque jour. Et puis ouais, s'il y aura un bon résultat, je pense que ça va sentir comme une victoire. Mais c'est pas que je vais aller chercher la victoire d'étape comme je l'ai fait à Paris-Nice.
Voilà, Evenepoel sans grandes ambitions donc sur ce Dauphiné, si ce n'est celle de retrouver des sensations en course. Il est là, bien sûr, c'est qu'il en a les moyens physiques, mais il ne veut surtout pas précipiter les choses comme il l'avait fait il y a 3 ans après sa très grave chute sur le Tour de Lombardie. Son objectif majeur cette année, ça reste le Tour de France, et pour l'instant, il ne pense qu'à ça.
Dans ma tête, je sais que les derniers 5 jours dans le Tour de France vont être hyper importants. 5 jours, étape de montée, et puis le contre-la-montre dans la dernière étape. Donc c'est vraiment là où est le point lourd du Tour de France. C'est pour ça qu'on a la patience, et que je suis patient aussi pour ne pas chercher et trouver la meilleure forme déjà aujourd'hui ou la semaine prochaine. Je pense que c'est vrai qu'on a un peu les idées dans la tête pour avoir la pique de forme dans le Tour de France et pas déjà ici au Dauphiné. Donc jour par jour.
Et l'un des tests très importants jour par jour cette semaine, ça sera le contre-la-montre de mercredi. Ça reste quand même l'une des craintes ou en tout cas des interrogations principales de Remco Evenepoel après sa blessure à la clavicule, puisque le vélo de chrono lui impose quand même une position pour le moins inconfortable et ça tire notamment sur les muscles au niveau des omoplates. Donc ça sera un vrai test pour lui mercredi.
Voilà, ce contre-la-montre de plus de 34 km, Cyril, on en saura plus sur les chances de Remco de briller dans le Tour de France sur ce chrono mercredi soir, ouais.
Oui, enfin, à l'arrivée tout simplement, puisqu'on finit par trois étapes de montagne, parce que sa grande crainte, à la limite, c'est pas le contre-la-montre, c'est de retrouver la confiance dans les descentes. Et je trouve d'ailleurs que son interview, enfin du moins ce qu'il dit, est parfaitement sensé. Il est dans le doute, il est dans la crainte, mais pas dans la crainte de ne pas être bien au Tour de France, dans tout ce qu'il y a autour et qui doit l'amener au départ du Tour en confiance. Donc il va le faire à fond, le critérium du Dauphiné. Et puis, bien en fonction de ses performances, de ses craintes, de ses doutes, c'est là où... en fait, ce Dauphiné, pour lui, c'est un test grandeur nature. Et donc, à l'issue de ce Dauphiné, il saura, et nous saurons vraisemblablement, s'il peut véritablement jouer la gagne sur le Tour ou pas. Mais le problème, c'est que il a eu cette chute, une remise en route difficile, psychologiquement peut-être, plus que physiquement. Donc il faut attendre, mais je n'ai pas beaucoup de doutes par rapport à Evenepoel.
Pas beaucoup de doutes sur quoi? Sur le fait qu'il puisse avoir un rôle à jouer sur le Tour
qui
de France
qui sera
en bonne forme et qui sera dans le coup, ouais. Tu y crois, toi?
Oui. Je l'ai déjà dit, mon seul problème avec Evenepoel, c'est que j'ai l'impression qu'il est toujours un petit peu trop gras. Voilà. Donc, si.
Tu me dis ça aussi tous les étés à la fin du Tour de France.
Mais toi, tu fais des efforts pendant le Tour.
Oui. Ça doit être ça, ouais. Avec les desserts que m'impose de manger Arnaud Souk. Hein, parce que
j'ai décidé que cette année, il n'y en aurait pas, Christophe.
Pas de dessert, voilà. Ça va être terrible.
Ni pour toi, ni pour moi.
Qu'est-ce qu'on va s'emmerder, voilà. Pardon. Alors, Evenepoel, qui a fait... alors, on ne l'a pas entendu dans son interview, mais j'ai lu ça, parce que tu as tout scripté, Arnaud, qui fait évidemment de Pogacar le grand favori pour le Tour. Bon, ce n'est pas le seul à
le
dire.
Il l'a dit en anglais, c'est pour ça que je ne l'ai pas passé le son, parce que ce sont des interviews à moitié en anglais, à moitié en français. Donc, voilà, mais oui, il rejette la pression. Non, c'est pas qu'il rejette la pression. C'est simplement, je pense qu'il est un petit peu réaliste, qu'il a vu Pogacar absolument écraser la concurrence sur le Tour d'Italie et qu'il s'imagine pas, lui, en l'état, être en mesure de lutter avec Pogacar. Et surtout, il n'imagine pas Pogacar faire un faux pas sur le Tour de France, entre guillemets. Il n'imagine pas, tout simplement, Pogacar être en dessous du niveau sur lequel il a été sur le Tour d'Italie. Donc, dans cette mesure-là, Remco Evenepoel, il se dit que déjà, s'il peut lutter pour le podium, ça sera déjà une très très bonne affaire. Je pense pas que ça soit une manière de rejeter la pression. D'accord. Il y a aussi une réalité, quand même, c'est la force de l'équipe. La force de l'équipe UAE et celle de l'équipe Soudal Quickstep, ça va être un peu limité quand même, je pense, du côté de Soudal Quickstep, parce qu'à l'exception de Mikel Landa, a priori, il n'y aura pas de grand soutien pour Remco Evenepoel en montagne, sachant que Julian Alaphilippe, à 95-98%, ne viendra pas sur ce Tour de France.
Oui, ça, c'est le vieux serpent de mer qui ressurgit de temps en temps. La fin de la récréation a été sifflée sur ce coup-là, Arnaud. Il n'y aura pas de Julien, ça c'est sûr.
Non, mais je pense qu'il n'y avait même pas de récréation, hein, puisque de toute manière, Julien Alaphilippe, lui, il avait évoqué cela dès le printemps. Ce n'était pas dans son programme. Il avait dit cette année, je fais le Giro pour la première fois pour aller gagner une étape. Il est devenu le 10e coureur français à gagner une étape sur chacun des trois grands tours. Donc voilà, ça c'était le véritable objectif maintenant. Julien Alaphilippe, il a un certain âge, il va avoir 32 ans, il fonctionne plus par. On va dire gros objectifs, justement. Il y a eu cette étape du Giro, il y a les Jeux Olympiques cet été, il y a les Championnats du Monde à Zurich en septembre. Je pense qu'aller se cramer sur le Tour de France, ça. Parce que voilà, ça serait quel rôle en fait sur le Tour de France? Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Cyril, mais s'il va sur le Tour de France, en gros, il aura peut-être pas la même liberté qu'il a pu avoir il y a quelques années. Donc je suis pas sûr que ça soit vraiment ce dont il ait envie. Et il me semble que Thomas Vauclair ne le sélectionnerait pas de manière aussi automatique pour les Jeux Olympiques si jamais Julien Alaphilippe venait de se cramer pendant 3 semaines au service d'Evenepoel sur le Tour.
Oui. Bon, oui, on attendra.
Attends, tu penses qu'il va y aller?
Le tour ne... Ah, j'ai pas dit qu'il allait y aller. Mais bon, quand on a un beau dessert devant soi et que vous dites, ben non, je veux pas le prendre, je vais rester.
Mais il a jamais été question qu'il le prenne, en fait. Le problème, Cyril, c'est les atermoiements de Lefebvre, en fait. C'est Lefebvre, un coup, il dit, tu y vas pas, je veux pas te mettre sur le tour cette année. Puis finalement, bah, pourquoi pas. Et puis il fait un bon tiro, donc bah oui, j'aimerais bien que tu y sois. Ça marche pas comme ça. Enfin, ouais. Cyril, je pense que tu le sais.
Faut se méfier de tout ce qui est dit. Je vous le répète.
Non, mais moi là, c'est pas tout ce qui est dit là. C'est moi tout ce que je te dis, tout ce que je peux savoir en discutant avec les gens.
Mais je veux dire que Lefebvre peut être influent quand même, Arnaud. Tu vois.
Oui,
même
bien
si
sûr.
Effectivement, bien Julien n'a pas envie de le faire. Si ton patron, si toi à RMC, ton patron te dit après le tour tu vas faire la Vuelta, bah tu iras faire la Vuelta. Tu vois. Je veux dire à un moment.
Lefebvre a appelé Julien Alaphilippe.
Il ira pas faire la. Mais non, il peut pas aller faire la Vuelta puisque son patron lui a dit tu vas aussi faire les Jeux.
Ah bah oui, bah oui, on peut pas tout faire.
Je me pose quand même. Non, mais pour répondre à Arnaud, quand il dit bon, il y a peut-être Vauclair. Attendez, Vauclair, il commande pas hein, chez Lefebvre. Hein.
Je te dis pas du tout que Vauclair commande chez Lefebvre. Ce que je te dis, c'est qu'en revanche, il commande pour lui sa sélection et que si jamais Alaphilippe va sur le Tour de France et va se cramer sur le Tour de France, c'est beaucoup moins évident qu'il le sélectionne. C'est la seule chose que j'ai dit, Cyril.
Oui, mais moi, j'aime pas le terme cramer. Tous les coureurs qui font le Tour de France, quand vous les retrouvez au championnat du monde, c'est ceux qui sont devant.
Oui, mais enfin, excuse-moi Cyril, entre le Tour de France et les championnats du monde, il n'y a quand même pas tout à fait le même écart qu'entre le Tour de France et les Jeux Olympiques.
En temps, tu veux dire, oui, effectivement, il y a combien de semaines
Il va y avoir deux semaines. Les championnats du monde, en général, c'est six semaines.
Oui, bon, allez.
Après, je me rappelle de garçons qui ont bien marché sur le Tour de France et qui ont gagné la Classica San Sébastien la semaine d'après.
Oui, une semaine après, et en plus en se baladant.
Non mais bien évidemment, si vous voulez, simplement, il est évident que de toute manière, il y a quand même une réalité, c'est que déjà, c'est pas prévu à son programme et qu'il a pas envie de le faire.
Oui, c'est ça, c'est surtout ça la réalité, c'est qu'il a pas envie de le faire.
Non mais la question, il y a que Julien qui l'a.
Oui,
mais c'est la réponse.
La réponse, je te la donne, elle est celle-là. C'est qu'il n'a pas envie de le faire et que s'il y va, c'est que vraiment, il se sera passé quelque chose avec Patrick Lefebvre. Il y a des discussions qui vont avoir lieu, c'est sûr et certain.
Mais ils en sont où, justement? Arnaud, tu vois notre espion, là, ils en sont où?
Pour l'instant, rien n'est décidé.
Oui, et puis Lefebvre nous l'avait raconté dans Bartoli Time, il était invité, il avait appelé Julien Alaphilippe au soir de sa victoire sur le Giro et il lui avait posé la question, parce que Remco Evenepoel a envie, il lui a dit t'as envie de faire le tour, et Julien n'était pas chaud même à ce moment-là, donc et là c'était tout récent, hein. il a dit non
ou il était pas chaud.
Non, mais c'est pareil, il a pas envie de le faire. Depuis le départ, il veut pas, et c'est pas à son programme. Donc voilà, s'il le fait, c'est que vraiment il se sera passé quelque chose dans la négociation qui fait qu'il ira sur le Tour de France. Mais la tendance, elle est quand même très très fortement à ne pas le voir sur les routes du Tour cet été, Julien Alaphilippe.
Eh bien, nous verrons tout cela. Il y reste encore un peu moins de 4 semaines pour décider oui ou non si Julien prendra le départ ou non de ce Tour de France. Alors, on va s'intéresser à un autre cadre qui lui sera a priori au départ du Tour. Il est déjà dans ce Dauphiné, un garçon qui s'est déjà imposé sur les routes du Critérium. C'était en 2022. À l'époque, Primoz Roglic était le leader de la Jumbo-Visma. Depuis, il a changé d'équipe, mais il reste assez mystérieux. Difficile de dire où en est le Slovène, qu'on a très peu vu en 2024. Seulement deux courses à son actif. Paris-Nice, où il a pris une modeste 10e place. Modeste pour lui, évidemment. Et le Tour du Pays Basque, où il a chuté. Roglic, c'est vraiment, Johan, le grand mystère. Qu'est-ce qu'on sait de sa préparation et de son état de forme?
Déjà, c'est celui qui a été le moins touché en fait, par cette chute autour du Pays Basque. Seulement des contusions, nombreuses certes, mais sans gravité. Reste qu'il n'a pas pu participer aux Ardennaises comme prévu, mais son équipe Labora a voulu privilégier un retour tranquille à l'entraînement sur cette période pour qu'il se remette complètement avant d'accélérer en mai, avec des reconnaissances de certaines étapes du Tour, celle des Chemins Blancs à Troyes ou encore celle du Plateau de Beille dans les Pyrénées, lieu d'arrivée de la 15e étape le 14 juillet. Avant donc un stage très important en altitude de 3 semaines au Teide en Sierra Nevada, en Espagne, à plus de 2000 mètres d'altitude, voire plus de 3000 avec le Pico Velleta, endroit privilégié par de nombreux coureurs. Roglic, qui était accompagné notamment d'Alexander Vlasov ou encore Jay Hindley, tous deux présents sur ce Dauphiné et qui seront d'une importance capitale cette semaine et sur le Tour. Préparation classique, préparation même complète, donc avant de reprendre enfin la compétition 2 mois après. Mais pour l'instant, tout se déroule comme prévu pour Primoz Roglic.
Alors, Roglic, est-ce que vous y croyez, messieurs ? 34 ans, une grosse chute, même si effectivement elle était moins grave que pour Vingegaard ou pour Evenepoel. Peu de courses à son actif. Ça semble quand même un peu juste tout ça, non, Cyril ?
Oui, mais il a l'habitude hein, de peu courir et ça a marché, ou de rester 2 mois sans courir, de prendre le départ d'un grand tour et pratiquement d'aller gagner. Donc il sait se préparer, il sait s'entraîner et mentalement il est capable de supporter ces stages d'entraînement qui sont pour moi souvent beaucoup plus difficiles que des compétitions où on travaille plus qu'au travers d'une compétition, même si la compétition pour d'autres raisons a besoin d'exister, ne serait-ce que pour les réflexes cyclistes, tout simplement, l'attention, ce qui d'ailleurs souvent a provoqué quelques chutes pour Roglic. Donc moi, je suis pas inquiet pour lui. Le problème aujourd'hui, 34 ans, est-ce qu'il a réussi à garder son niveau de performance le plus élevé, ou est-ce que comme tous les individus sur Terre, à partir d'un certain âge, on régresse. Donc je ne pense pas qu'il puisse progresser, il va donc régresser un petit peu et il faudra que sur les événements de course, il puisse s'en sortir. Mais honnêtement, la pédale, je ne le vois pas gagner le tour. Le Dauphiné peut-être, mais pas le tour, non. Et puis il a deux équipiers qui sont formidables, Vlasov et Jainlay, c'est peut-être eux qui sortiront du chapeau.
On rappelle que Jainlay a quand même été maillot jaune l'an passé sur le Tour de France. Il s'était un petit peu affirmé. Vlasov aussi s'était affirmé sur Paris-Nice. Donc je suis assez d'accord avec toi, Cyril. De toute manière, pour moi, c'est même pas dans quel état de forme sera Primoz Roglic. Moi, j'ai assez peu de doutes sur le fait qu'il pourra jouer le podium. J'ai aucun problème avec ça.
Ce qu'il faut, c'est qu'il reste assis sur sa bicyclette et qu'il ne tombe pas. Hein, parce que,
oui, ça c'est une première chose. Mais pour moi, la vraie question, c'est qui est en mesure aujourd'hui de battre Pogacar sur le Tour de France. Pour moi, c'est pas possible. Et le reste, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième place va se résumer à une lutte entre plusieurs bonhommes. Et je pense que dans cette lutte-là, Primoz Roglic peut tout à fait y être. Mais je le vois pas gagner le Tour de France. Et je suis assez d'accord avec Cyril. Je pense que il y a un moment où il a quand même atteint un certain plafond de verre à mettre avec des énormes guillemets, parce qu'il a quand même gagné le Giro et trois Vuelta. Et il a failli gagner le Tour de France s'il n'était pas tombé sur un stratosphérique Pogacar à la planche des Belles Filles en 2020. Mais voilà, ça me semble aujourd'hui très très compliqué pour lui quand même de lutter pour la victoire finale.
Mmh. Ok, donc on va se bagarrer pour la deuxième place dans le Tour de France.
Vous avez déprimé, c'est comme ça que les choses, en tout cas. Désolé les gars, mais ça va être intéressant. Hein.
Ouais. Oui, mais c'est ce qui s'est passé sur le Giro. Hein.
Oui, je sais.
Oui, oui.
Oui, on se faisait une telle joie il y a quelques mois à l'idée de voir une bagarre incroyable avec tous les cadors, tous les extraterrestres. Et en fait, là aujourd'hui, on est à 4 semaines du départ. Tu nous dis, tout le monde va se bagarrer pour la deuxième place. Excuse-moi d'être un peu déçu et d'avoir un peu le moral dans les chaussettes quand j'entends ça.
Je vais te remonter le moral. Peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que je vois les choses.
Mais je suis d'accord avec toi, malheureusement.
Peut-être pas 10 minutes d'avance pour Pogacar sur Primoz Roglic quand même sur le Tour de France. Il y aura au moins une bataille pendant 2 semaines, on va dire.
Franchement, le plateau du Giro,
c'est pas le même.
C'était quand même pas tout à fait le
mais
le
c'était avec un coéquipier de Primoz Roglic, hein, Daniel Martinez, qui fait 2 sur le Giro. Ah, c'est pas du même niveau quand même, Primoz Roglic, il est capable. Après, il y a le temps qui presse aussi pour Primoz Roglic. Hein. Le Tour, c'est ce qui lui manque. Il a 34 ans, ça lui met un petit peu de pression. Mais quand même, il a une équipe très forte autour de lui quand même. La Bora, c'est quelque chose. Moi, je me dis qu'il peut au moins tenir 2 semaines quand même, être à la lutte pour la première place. Après, je dis ça parce qu'il y a quand même ce Tour 2023 où on a eu une lutte pendant 2 semaines et après, ça a été plié. Mais Primoz Roglic, c'est pas n'importe qui. Il finira pas à 10 minutes de Pogacar, et même s'il sera tout proche. Bah non, mais j'essaie de te faire sourire un petit peu, Christophe, parce que là, tu m'as l'air un peu chafouin.
Essaye de me remonter le moral. Alors, on va détailler les autres, donc les prétendants à la deuxième ou à la troisième place sur ce Tour de France.
Tour de France ou Dauphiné ?
Dauphiné et Tour de France, on va commencer par le Dauphiné. Ouais. Mais enfin, il y en a pas mal qui seront au départ du Tour également. On va donc commencer par la vraie bonne surprise de l'année 2024, à savoir l'Américain Matteo Jorgensen, vainqueur de Paris-Nice, vainqueur ensuite d'à travers derrière la Flandre, très en vue sur les classiques flandriennes. Il est l'un des co-leaders de la Visma sur ce critérium, au même titre que Sepp. Alors Kuss, c'est ça qu'on dit maintenant, Arnaud,
paraît-il,
c'est ça? Paraît-il. D'accord, Sepp Kuss, je préférais Kuss. Hein. En l'absence du patron, c'est qui pour vous le vrai leader de la Dream Team néerlandais, Jorgensen ou Kuss?
Jorgensen.
Jorgensen, ouais.
Pour moi, c'est Jorgensen. Pour moi, c'est Jorgensen, et je reprendrai toujours la phrase de Cyril. Voilà, le pouvoir. Comment tu dis ça déjà, Cyril? Le pouvoir, ça ne.
Le pouvoir, ça se donne ça, pas, ça se prend.
Voilà, ça se prend. Et je crois que Theo Jorgensen, il avait pris le pouvoir quand même de fort belle manière sur Paris-Nice. Il avait montré que c'était un vrai patron. On avait pensé un instant que c'était un petit peu un hasard de le retrouver aussi haut. Il avait montré qu'il était tout simplement indécramponné. Matteo Jorgensen, et pour moi, voilà, pour moi c'est un coureur qui a toutes les chances. Déjà, j'en fais mon favori cette semaine pour s'imposer sur le Dauphiné.
Ah oui, d'accord.
Il a toutes les chances.
D'accord.
Il a toutes les chances, même, je pense, s'il réussit ce Dauphiné, de potentiellement être une carte, une seconde carte pour la Visma Lease Bike sur le Tour de France.
Ouais, en fonction de l'état de Vingegaard. Mais,
en fonction de l'état de Vingegaard.
Et puis surtout, dans ce duel entre Jorgensen et Kuss, du coup, on ne sait pas où on est, l'Américain, Kuss. On ne sait pas du tout.
13e du Tour de Catalogne, 8e du Tour de l'Algarve, 41e au Pays Basque. Franchement, pour un vainqueur de la Vuelta, c'est pas vraiment une confirmation totale.
Hein. Vainqueur de la Vuelta, il a participé à tous les grands tours l'année dernière, et on sait à quel point il est très très important dans ce rôle-là d'équipier de luxe pour Jonas Vingegaard. Moi, je suis extrêmement inquiet pour ce que fait Sepp Kuss. Donc, c'est pour ça aussi que Jorgensen est propulsé leader sur ce Dauphiné. Après, je suis pas d'accord avec Arnaud. Je pense que il va pas gagner le Dauphiné, et sur le Tour de France, même si c'est une deuxième carte, pour le coup, lui, il finira à 10 minutes de Pogacar. Mais voilà, c'est vrai que Jorgensen a pris un petit peu de galon. Maintenant, je l'attends en très haute montagne, parce que Paris-Nice, c'est quand même moins dur que le Dauphiné. Et ça, là, je suis plus inquiet pour lui.
Alors, donc, on a différents sons de cloche concernant Jorgensen. On va demander au druide de statuer. Est-ce que Jorgensen, pour toi, est un favori de ce Dauphiné? C'est le favori d'Arnaud, pas celui de Johan, et pour toi, Cyril?
Moi, je pense qu'il n'y a pas photo entre Kuss et Jorgensen au sein même de l'équipe de la Visma. D'abord parce que Kuss n'est pas un taulier, n'est pas un parent. Comme si le pouvoir, ça se prend. Il a gagné le Tour d'Espagne. Ok, et c'est très bien, mais derrière, il s'est pas comporté comme quelqu'un qui avait gagné le Tour d'Espagne. C'est-à-dire qu'il est reparti avec sa tranquillité, sa sérénité pour redevenir équipier. Et je pense qu'il se mettra au service de Jorgensen, que ce soit sur le Dauphiné ou que ce soit sur le prochain Tour de France. Donc Jorgensen, oui, peut gagner le Dauphiné. Tour de France, ça me paraît quand même un petit peu au-dessus de ses possibilités. Mais bon, il faut voir comment seront les adversaires. Mais bon, Ayuso, à quel niveau se situe-t-il? Moi, il y a un coureur qu'il va falloir suivre avec beaucoup d'attention. C'est un petit jeune de 22 ans qui s'appelle Tiberi, qui sort du Giro, qui a fini très fort le Giro, meilleur jeune. Pour moi, Tiberi, c'est peut-être celui qui, avec le foncier qu'il est allé chercher sur le Giro, moi j'ai toujours vu après des grands tours, dans les courses qui suivaient directement derrière, dans les 8-15 jours, si le travail avait continué à bien se faire, avec les restructurations nécessaires, eh bien les coureurs ont un cran au-dessus. Rappelez-vous des Tours d'Italie à une certaine époque, quand l'équipe, les coureurs qui sortaient du Tour d'Italie arrivaient sur le Midi Libre, une épreuve qui n'existe plus aujourd'hui, ils nous enrhumaient.
Ouais.
Donc Tiberi à suivre.
T'as raison, on en a peu parlé de Tiberi, cinquième du Giro et vainqueur du classement du meilleur jeune. Il avait fait de très beaux résultats également, troisième du Tour des Alpes, huitième du Tour de Catalogne. Il a 22 ans, coureur de la formation Bahreïn, donc à surveiller. A priori, il devrait être au départ du Tour lui aussi et faire les deux.
Je ne pense pas, non. Je pense que c'est plutôt la Vuelta. C'est plutôt la Vuelta sur laquelle il sort, Anthony.
D'accord, la Vuelta. La Vuelta pour Tibéri, mais peut-être, pourquoi pas, sur ce Dauphiné. Alors, les autres, parce qu'on va s'intéresser peut-être à l'équipe de Pogacar.
Oui.
Évidemment, pendant le tour, il y aura qu'un seul patron. Mais en attendant, il y en a certains qui ont des cartes à jouer, et notamment Yann Juan Ayuso, ou encore, pourquoi pas, Pavel Sivakov, mais je pense qu'il sera quand même au service de Ayuso. Donc, l'Espagnol qui va découvrir dans quelques semaines le Tour de France, lui aussi, il ne l'a jamais fait. Après un début de saison réussi, vainqueur du Tour du Pays Basque, deuxième de Tirreno, cinquième du Romandie. C'est un sacré client. Johan, pour toi, c'est lui le favori de ce Dauphiné.
Ouais, pour moi, c'est un des coureurs les plus forts du peloton. Il avait été énorme, hein, sur Tirreno. Alors, il avait fini loin de Jonas Vingegaard, mais il l'avait battu sur le chrono. Et même pour moi, au-delà du fait qu'il fait partie en tout cas des favoris pour gagner ce Dauphiné, ça va être surtout un baromètre, Juan Ayuso. Parce que c'est le coéquipier de Pogacar, c'est le deuxième, voire le troisième larron de UAE, derrière Poggi et derrière Adam Yates. Si on n'est pas capable de battre, de lâcher même un Juan Ayuso, dans les têtes, ça va peser. On va se dire, mais si on n'arrive pas à lâcher Juan Ayuso, comment on va lâcher Adam Yates, comment on va lâcher Tadej Pogacar? Donc je me dis, ça va être très important de suivre ce Dauphiné de Juan Ayuso, parce que c'est, voilà, la focale, je vais la mettre sur lui, et je vais surveiller comment les grands leaders vont se comporter avec lui, et comment même les équipes des grands leaders vont essayer de lui faire mal.
Uh-huh. Vous êtes d'accord avec Arnaud, t'es d'accord avec ce que
Oui, non, mais il fait partie des grands favoris, hein, Juan Ayuso, évidemment, qui sera là pour la lutte finale. Voilà, après, bon, moi je dis Jorgensen, j'en fais un pari. Voilà, j'avais juste constaté que Matteo Jorgensen est quand même très très dur au mal, et je le vois pas lâcher comme ça dans des étapes de montagne, même face à un Juan Ayuso. Donc, mais ça va être intéressant de voir la lutte entre ces deux coureurs-là. Ouais. Rappelons que Juan Ayuso avait quand même terminé troisième de la Vuelta en 2022, c'est un coureur vraiment qui, il a tout juste 21 ans, hein. Je ne sais pas si on se rend compte vraiment de l'espoir que cela représente pour le cyclisme espagnol. C'est vraiment un garçon qu'on va suivre avec une grande attention ces prochaines années. Voilà, un vrai espoir à suivre, et pourquoi pas le voir effectivement à la lutte pour la victoire finale cette semaine.
Très bien, donc quand les chats ne sont pas là, quand
et
les patrons
je mettrai
sont
Carlos
pas là,
Rodriguez les... aussi. Ah ouais, on n'a pas parlé de Carlos Rodriguez, mais je mettrai aussi Carlos Rodriguez qui, voilà, peut-être a lui aussi des choses à prouver avant le Tour de France. Lui qui était devenu leader par la force des choses, hein, d'Ineos Grenadier, l'ont passé sur le Tour suite aux nombreuses défaillances de Thomas Pidcock. Peut-être que là aussi, il va avoir envie de se montrer en vue du Tour.
Voilà, vainqueur du Tour de Romandie, Carlos Rodriguez, qui sera le leader, qui est le leader de la formation Ineos sur ce critérium du Dauphiné. Vous en voyez d'autres, messieurs? Non, on a fait le tour quand même, là. On a ratissé large. Hein.
David Gaudu, on n'en a pas parlé.
On n'en a pas parlé. Attends. On se le garde pour le deuxième round, puisqu'il est l'heure maintenant de notre baromètre des Français. Et Cyril va pouvoir frapper à nouveau.
RMC, le baromètre des Français.
Voilà, un critérium du Dauphiné dont je vous disais qu'il n'avait plus été remporté par un Français depuis Christophe Moreau. Double vainqueur de l'épreuve. On en profite pour le saluer, le grand Christophe, en vainqueur en 2001 et 2007. Depuis, c'est un peu le désert, même si Thibaut Pinot, Guillaume Martin étaient tous les deux montés sur le podium au deuxième et troisième place, c'était en 2020. Le Dauphiné, Cyril, c'est comme le reste, nos coureurs ne sont pas invités malheureusement pour la gagne. Hein.
Bah, le dernier vainqueur du Tour de France, je crois que c'est Bernard Hinault.
Alors l'année prochaine, on va fêter depuis, un grand ouais. anniversaire.
Oui, c'est vrai. Si on n'est pas performant sur le Tour depuis des années, on ne peut pas l'être sur le Dauphiné. Mmh. Puisqu'on l'appelle mini-tour, encore une course qui, pour l'instant, qui a la chance de pas s'appeler, de ne pas avoir un nom en anglais. Non, là, sur le Dauphiné, on a personne pour jouer dans le top 3, hein, sur le podium. Mmh.
Là, cette année, tu veux dire,
enfin, cette année, oui, si vous m'en trouvez un, c'est parfait.
Non, mais je vais pas. J'ai surligné beaucoup de noms, vraiment pour me faire plaisir. J'ai surligné 4 noms français, mais voilà, Gaudu, Martin, Barguil. Mais Barguil, de toute manière, il réussira pas son Dauphiné. Champoussin, j'attends de voir. Voilà, mais c'est vrai que c'est un peu léger, quoi. Voyons quand même Romain Grégoire ce que ça peut donner cette semaine.
Alors justement, parlons-en.
Oui, c'est un autre style de coureur, hein. C'est pas Grégoire aujourd'hui, c'est pas un coureur pour les trois dernières grandes étapes de montagne, quoi. Mais il a du talent, attention.
Aujourd'hui, il peut gagner, hein, puisqu'on enregistre cette étape jour de l'étape du col de la Loge. Je vais y arriver, j'allais dire col de la Garde encore, col de la Loge. Donc il pourrait pourquoi pourquoi pas gagner aujourd'hui.
Voilà, ce Romain Grégoire qui est l'un des grands espoirs de la Groupama, évidemment, qui dispute son premier Dauphiné et qui en suivant sera aussi aligné au départ du Tour de France. Arnaud, tu l'as rencontré avant qu'il ne prenne le départ du Dauphiné. Qu'en attend-il de ce Dauphiné? On l'écoute tout de suite.
Content d'être là, ça a commencé à faire long depuis Liège de pas courir, donc content de remettre un dossard. Et puis c'est quand même une belle course du calendrier que je découvre, donc j'ai assez hâte de courir. Ouais. On sort d'un stage prépa tour, on est vraiment dans l'optique de préparer le Tour de France. Après ça reste une compétition importante, une course à part entière, donc on va prendre chaque jour les uns après les autres et chaque course les unes après les autres et à commencer par le Dauphiné aujourd'hui. Il y aura plutôt deux objectifs, un peu comme sur le Tour de France, il y aura des thèmes qui me conviennent, donc sur lesquels j'espère pouvoir aller jouer ma carte personnelle et aller chercher une victoire d'étape. Et sur le week-end, après, ça sera plutôt aux côtés de David pour le classement général.
Voilà, Romain Grégoire qui ne se fait guère d'illusions sur les arrivées en altitude et donc la fin de ce Dauphiné à partir de vendredi. En revanche, donc peut-être, pourquoi pas, une étape pour les puncheurs. Là aussi, on pourra l'attendre, Cyril, sur le Tour de France. Dans ce genre de profil, il peut aller chercher et avoir une chance de remporter une étape sur le Tour et sur le Dauphiné.
Ah oui, il a toutes les qualités nécessaires pour cela. Après, il faut qu'il y ait les opportunités, il faut bien courir, il faut une équipe qui court juste. À partir de ce moment-là, oui, il aura des opportunités sur le Tour. Oui, c'est indéniable. Et puis, ça va lui permettre aussi de prendre un petit peu de caisse. C'est une équipe qui n'a pas de leader pour le classement général sur le Tour de France. Donc, chacun aura, en fonction de... en fonction des circonstances de course, parce qu'il va en plus assez vite. Oui, non, c'est un super beau coureur, oui. Intéressant dans une équipe.
Exactement. C'est une équipe qui n'a pas de leader pour le classement général, Cyril ?
Ah si, il y a David.
C'est ce que vient de dire Cyril.
Oui, bah, je le dis, je confirme, oui.
Ah d'accord.
Mais, est-ce qu'ils ont un leader pour gagner le Tour ?
T'as le droit d'imaginer jouer un top 5 ou un top 10 quand même.
Oui, mais c'est...
T'as le droit de l'imaginer. J'ai pas dit que t'allais le faire, mais t'as le droit de l'imaginer.
Je te laisse l'imaginer.
Comme ça, au moins. Très bien. Alors, ce Dauphiné qui, en revanche, se fait sans Lenny Martinez. Ainsi, on a décidé le patron, Marc Madiot, qui ne veut pas de Lenny sur le Tour, ni sur le Dauphiné. Pour le patron de la Groupama, Lenny est trop jeune. On l'écoute.
Il faut être raisonnable. Le Tour de France est une machine à broyer les jeunes coureurs français. Et je souhaite la plus grande carrière possible à Lenny Martinez. Et je pense que le mettre sur le Tour de France dès cette année ne lui rendra pas service. Je pense qu'il n'est pas encore totalement apte à participer au Tour pour y faire un grand résultat. Et l'objectif avec lui, c'est de faire des grands résultats. Donc je pense qu'il faut être raisonnable.
Voilà, Marc Madiot qui était notre invité dans les grandes gueules du sport, c'était ce week-end. Cyril, ton avis sur ce que dit ton petit protégé, Marc Madiot. Enfin, il est plus petit maintenant. Ton vieux protégé.
Il a été. Oui, mais Marc retient les leçons, c'est déjà quelque chose d'important. pas les miennes. Les leçons de ses erreurs.
Ouais. Tu parles de Thibaut Pinot.
Bien sûr, Thibaut Pinot a fait le Tour un an trop tôt. Il n'était pas mature pour faire le Tour. En plus, il gagne une étape. Donc à partir de ce moment-là, c'est ce que je viens de dire.
Arrêtez avec ça.
C'est pas parce qu'il a gagné une étape que c'était pas une erreur.
Arrêtez avec ça.
Bon, donc il n'avait pas la maturité psychologique pour pouvoir le faire. Et il termine le Tour.
C'est très français, ça, de pas avoir la maturité psychologique à 21 ans.
Non, tu pourrais me laisser terminer plutôt que de me couper la parole. C'est-à-dire que tu as peur de ce que je vais dire qui pourrait te contredire, ouais. C'est ça.
Non. J'ai eu le cas
avec un coureur qui s'appelait pas Thibaut Pinot, qui s'appelait pas Lenny Martinez, il s'appelait Bernard Hinault. Eh bien, je n'ai pas voulu que Bernard Hinault, et avec son accord, il avait compris, qu'il fasse le Tour 77 alors qu'il venait de gagner Ganvel-Velghem, le Dauphiné et Liège-Bastogne-Liège.
Il avait quel âge?
Il avait 22 ans.
22 ans, d'accord.
22 ans.
Donc 2 ans de plus que Lenny Martinez actuellement. Mais on a vu que
mais parce
à 22
qu'il était
ans,
pas prêt.
Pogacar a remporté le Tour, Cyril.
Oui, 21, mais Bernard Hinault...
21,
non, non, mais je pourrais... Bon, attendez, si vous me coupez pas la parole, je vais vous expliquer pourquoi. Mais vous le savez, tout simplement parce que Bernard Hinault avait été un an sans faire de vélo, parce qu'il est parti à l'armée, il n'est pas allé au bataillon de Joinville, il est allé dans une caserne normale, il a fait son service militaire normalement, et il n'a pas touché au vélo pendant un an.
Bah, Léni, lui,
et donc, il n'était pas prêt.
Il n'y a pas de service militaire pour
l'armée. Oui, mais ok, mais il y a deux ans d'écart.
D'accord. Il ne
faut pas exagérer.
Quel âge a Romain Grégoire?
21 ans, non, voilà.
Le même âge, ils sont de 2003.
Après, il y a Juan Ayuso. Il va pas pour le général, Romain.
Oui,
certes, mais Juan Ayuso, en fait. C'est bizarre que Juan Ayuso ait pas eu la pression pour faire un podium sur le Tour d'Espagne à 19 ans. C'est bizarre que Tadej Pogacar ait pas eu la pression pour faire un podium sur le Tour d'Espagne à 19 ans. C'est étonnant quand même qu'il y ait que les Français qui aient la pression. Et pourquoi pas les comparer? Je sais pas, on m'explique que Lenny Martinez, c'est un potentiel futur grand tour. Moi, je pense que la réalité, elle est un peu ailleurs. Je pense que la réalité, elle est un peu ailleurs que ce que nous explique Marc Madiot.
Non. Oui, qu'est-ce qu'il y a?
Non, mais vas-y, continue. Parce qu'il te coupe la parole. Donc
attendez, quand on réfléchit et qu'on voit dans l'intérêt d'un coureur, on ne s'occupe pas de savoir si Ayuso il l'a fait, si Pogacar il l'a fait. C'est l'individu qu'il faut regarder, c'est l'individu qu'il faut analyser. Et quel est le mieux pour lui? Moi, je dis qu'aujourd'hui, je suis directeur sportif de l'ENI, il ne fait pas le tour.
D'accord.
Et est-ce qu'il l'empêchera pas éventuellement de le gagner peut-être dans 2 ou 3 ans? Mais pour l'instant, il a pas la caisse, il a pas le fond pour pouvoir le faire. Voilà. Bon, mais il faut pas comparer avec les autres. C'est votre individu, le coureur qui est en face de vous. Vous devez le sentir. Ça fait 2 ans qu'il est avec Marc, avec la Conti. Bon, il y a un moment, tu sens qu'est-ce que. Pour l'instant. Martinez, il est quoi? Il a beaucoup de fraîcheur, il a beaucoup d'envie, il court juste, tout est parfait. Laissons-le faire le chemin qu'il doit faire pour arriver. Mais d'un seul coup, ne le jetons pas là-dedans, il n'est pas prêt pour ça, pas aujourd'hui. Grégoire est dans un autre, c'est une autre personnalité Grégoire que Lenny. Il est dans un autre schéma, et y compris dans un autre schéma de course. Si Lenny prend le départ du Tour, c'est pas pour faire 75e. Donc vous allez le mettre pour qu'il fasse quoi? Moi, comme j'avais dit à Bernard Hinault, écoute, on peut le faire cette année-là, il n'y a pas de problème. T'es pas prêt, tu sauteras. De toute façon, il y a un jour où tu vas sauter. Quand on s'appelle Bernard Hinault, qu'on a le potentiel que tu as, rappelle-toi, les grands coureurs, les très grands coureurs, ils prennent le départ du Tour et ils gagnent la première année. D'accord. Et ce que je voulais, c'est que Bernard le gagne la première année. Et c'est beaucoup plus fort que de faire un premier tour où tu fais 70e. Ouais. Ça n'a pas de sens.
Ça veut dire que dans l'esprit de Marc ou même dans le tien, Lenny Martinez, quand il sera aligné au départ du Tour dans 1 ou 2 ans, ce sera dans l'objectif de le gagner.
Mais bien sûr.
D'accord.
Ouais, d'accord. On a enlevé Pogacar, on a enlevé Vingegaard. Faudrait qu'il arrive à ce niveau-là, Lenny Martinez. Mais on peut pas enlever, quand même, vu la situation de Lenny Martinez au sein de la Groupama FDJ, qui a peut-être un petit peu de rancœur de la part de Marc Madiot.
Rancœur, je sais pas, mais c'est évident que voilà, il y a aussi la construction d'un projet sportif dans l'avenir. Et même si Marc Madiot l'a pas confirmé dans cette intervention qu'il a eue dans les grandes gueules du sport, il a quand même laissé largement penser que effectivement Martinez, même si c'est pas encore officialisé, ne serait plus avec le Groupama FDJ l'an prochain, comme on vous l'avait révélé il y a quelques semaines.
Voilà, il est possible qu'il soit avec Tibéri, c'est ça, avec Antonio?
Absolument.
Tibéri la saison prochaine, donc voilà, il faudra se mesurer au grand espoir italien. Pour terminer, messieurs, un mot sur les autres Français. Guillaume Martin, troisième en 2020, l'horloge tourne aussi pour Guillaume. Oui. Hein, 30 ans, est-ce qu'on peut encore, est-ce qu'il faut encore compter sur lui? Est-ce que vous comptez sur lui?
Pour une victoire d'étape, peut-être, mais oui. Il n'en a aucune en World Tour. J'ai l'impression qu'il a laissé passer le train, Guillaume Martin. Je pense que ça va être trop compliqué là, pour lui, même pour une victoire d'étape.
Ouais, et puis chez Decathlon AG2R, là, c'est un peu l'incertitude concernant à la fois le Dauphiné et le Tour. Arnaud, on en discutait sur l'antenne d'RMC hier. L'équipe alignée là sera pas forcément la même que sur le Tour. On rappelle que Félix Gall, qui sera a priori le leader de Decathlon, sera sur le Tour de Suisse, lui. En revanche, Victor Laffey, toujours pas au départ du Dauphiné, a priori, il sera pas là sur le Tour de France. Hein. Là,
écoute, il est toujours supposé y être. mais c'est vrai que ça, ça sent quand même pas très très bon pour lui effectivement. Tu l'as dit, c'est Félix Gall qui a priori devrait être le leader de l'équipe Decathlon AG2R sur le Tour de France. Voilà, c'est une équipe un petit peu mixte on va dire, qui a été formée cette semaine avec notamment Sam Bennett pour les sprints, et on a hâte de voir Dorian Godon aussi à la manœuvre, parce qu'il nous a régalé tout le printemps, et il sera lui aussi sur les routes du Tour de France, et ça pourrait être un atout de poids pour l'Autrichien Félix Gall.
Et pour Victor Lafay, juste coupe Christophe, pardon, mais zéro jour de course cette saison. Ouais. On l'attend pas sur le Tour, mais peut-être sur la Vuelta, il a une tendinite au genou, c'est pour ça qu'il a pas couru encore, mais ce serait plutôt pour sur la Vuelta pour Victor Lafay.
Très bien. Un dernier mot concernant Benoît Cosnefroy, qui a été quand même omniprésent depuis le début de la saison. Il n'est pas sur le Dauphiné. Est-ce qu'on a une chance de le voir sur le Tour? On sait qu'il est pas, c'est pas vraiment son épreuve favorite. Est-ce qu'on a des infos le concernant ou non?
Là, c'est pareil que Julien Alaphilippe. Hein. Il y a quand même l'objectif Jeux Olympiques au mois d'août. Benoît Cosnefroy, a priori, pourrait quand même largement prétendre à faire partie de la sélection de Thomas Vauclair. On rappelle que Thomas Vauclair aura 4 garçons à mettre sur sa liste pour la course en ligne. A priori, Benoît Cosnefroy, compte tenu du profil de puncher qui attend les coureurs sur le parcours des Jeux Olympiques, devrait avoir sa place quand même dans cette sélection olympique. Et voilà, a priori, pour l'instant, en tout cas, il n'est pas dans les... On va dire qu'il n'est pas dans les plans prioritaires de l'équipe Decathlon AG2R.
Très bien. Cyril, tu as quelque chose à ajouter à tout ça ou c'est bon?
Non, c'est parfaitement cohérent. Cosnefroy, c'est vraiment un super coureur qui, sur le Tour jusqu'à présent, ça me rappelle un petit peu Gilbert Duclos-Lassalle, il y a quelques années, capable de gagner Paris-Roubaix. Et excellent sur toutes les épreuves et sur le Tour de France, qui n'a jamais réussi à être dans le coup. C'est le mois de juillet, c'est la chaleur, il y a des biorhythmes aussi qui existent chez les individus.
Oui, c'est vrai.
Et donc,
lui, c'est
donc,
pas son truc, l'été.
Lui, sur juillet, il est pas dedans.
7 victoires hein, quand même depuis le début de la saison pour Benoît Cosnefroy, c'est quand même assez incroyable, voilà, notamment le Grand Prix du Morbihan, la Flèche Brabançonne, Paris-Camembert, c'est vraiment une super saison que réalise le coureur du Cotentin.
Eh ben, s'il est champion olympique, on lui pardonnera de ne pas avoir été brillant sur le Tour de France depuis qu'il participe à ce Tour, et on fêtera avec lui et avec ses supporters, on l'attendra en haut d'un col pour sabrer le champagne avec lui. Voilà pour ce que l'on pouvait dire de ce Critérium qui s'est donc élancé ce dimanche et dont on tirera le bilan évidemment lundi prochain avec toute l'équipe de Grand Plateau. Merci messieurs, bonne semaine, soyez bons, on va se régaler cette semaine hein, Arnaud.
On va se régaler, c'est sûr. Il y a du beau monde.
Tout au long du week-end notamment. Allez, bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Toutes les énergies du sport nous rassemblent. Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Énergie.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.